Grand plaisir pour moi et aussi un grand honneur en tant que consul général du Portugal dans cette très belle ville de Bordeaux d'avoir l'opportunité ce soir de vous présenter le professeur, l'historien et l'auteur Vítor Pereira, spécialiste de l'histoire politique de l'État nouveau au Portugal, le Portugal de Salazar, pour simplifier, et en même temps spécialiste de l'histoire de l'immigration portugaise pendant cette période. C'est pourquoi je dois commencer par remercier la librairie Mola qui a, dès le début, montré une grande ouverture dans l'accueil de cette initiative. Comme j'ai déjà dit, le professeur Vítor Pereira, qui est maître de conférences à l'Université de Pau et des Pays de l'Adur depuis septembre 2010, a été post-doctorant de la Fondation pour la Science et la Technologie à Lisbonne, comme chercheur de l'Institut d'Histoire Contemporaine de l'Université Nova de Lisboa en 2007, et aussi boursier du Centre d'études ibériques de l'Université de Coimbra et de Salamanca, où il a fait une autre recherche sur les relations luso-espagnoles face à l'immigration clandestine portugaise vers la France entre 1957 et 1974. En 2007, il a soutenu sa thèse de doctorat en histoire à l'Institut d'études politiques de Paris, mention très honorable sur l'État portugais et les Portugais en France dans la même période. En 2001, il a obtenu le DEA d'histoire du XXe siècle, mention très bien, avec félicitations à l'IPE de Paris, et en 2000, à l'Université de Rouen, la maîtrise en histoire sur l'exilé politique portugais en France de la même période. Le professeur Vítor Pereira a obtenu son diplôme de l'enseignement supérieur en histoire, mention assez bien, en 1999, à l'Université de Rouen, et le DEEG de l'histoire l'année précédente. Au niveau de l'enseignement, M. Vítor Pereira est, depuis 2010, maître de conférences à Pau, comme je l'ai dit, et entre 2008 et 2010, il a été chargé de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris, Collège universitaire de Sciences Po, études ibériques et latino-américaines à Poitiers, chaire intitulée « Histoire du Portugal au XXe siècle ». Le livre qui sera présenté aujourd'hui par M. Vítor Pereira est son premier livre, publié tout seul et en France, même si le professeur a déjà une très vaste liste de publications sur les deux sujets de sa spécialité, l'histoire politique du Portugal sur Salazar et l'immigration portugaise dans la même période. Je mentionne aussi le livre publié au Portugal et qui est organisé par Nuno Domingues sur l'État nouveau au Portugal, « O Estado Novo em Questão, chez la Maison, édition 70, en 2010 ». Il a contribué à plusieurs ouvrages collectifs, surtout au Portugal, dans des magazines spécialisés en France, en Espagne et au Portugal, et bien des recensions critiques des ouvrages couvrant ces sujets et thèmes historiques. Il a participé à beaucoup de colloques, séminaires et conférences, des journées d'études en France et au Portugal, et a reçu deux prix récompensant ses travaux académiques. Bien sûr, je ne vous parlais pas du livre que M. Vítor Pereira nous présentera dans quelques instants, et que, l'ayant déjà lu, je considère une empreinte de la littérature académique et des travaux historiques sur la dictature de Salazar face à l'immigration. L'État portugais et ses migrants en France, qui a été publié par les presses de Sciences Po à la fin de l'année dernière. Je passe la parole au professeur Vítor Pereira en rajoutant tout simplement que la période étudiée commence l'année même, où pour la première fois, un candidat fort de l'opposition défie le candidat du régime de Salazar à la présidence de la République, avec le général Humberto Delgado, et ne s'arrête qu'à la fin de l'État nouveau au Portugal, un peu après la mort de Salazar, en 70, mais qui ne gouverne plus depuis 68, avec la révolution démocratique dans mon pays, la révolution des claviers de 1974. Merci beaucoup. Et je passe la parole à M. Vítor Pereira. Bienvenue.
Merci beaucoup, M. le consul, de cette présentation fort longue. Je ne m'étais pas rendu compte que j'avais fait tout ça et que j'avais eu mention assez bien à la licence, parce que je vais traîner comme un poids tout le reste de ma vie. Et je vous remercie également d'avoir tout fait pour pouvoir organiser cette conférence à Bordeaux, être invité par le consul de Bordeaux, qui est le successeur d'Aristide Sousa Mendes. C'est quand même un certain poids, donc j'en suis tout à fait conscient. Donc, je tiens à vous remercier. Je pense que je ne vais pas dire à Bordeaux qui était Aristide Sousa Mendes, celui qui a sauvé 30 000 juifs en juin 1940 en leur délivrant des visas, leur permettant de rentrer en Espagne, puis au Portugal, puis pour la grande majorité d'aller en Amérique et pouvoir être sauf. Donc, comme vous l'avez compris, Je vous remercie aussi à vous tous d'être venus, excusez-moi. Et donc, comme vous l'aurez compris, le livre que je présente aujourd'hui est issu de ma thèse. Donc, une thèse, c'est un long travail solitaire dans des archives, parfois difficiles à trouver, notamment au Portugal, et pire encore en Espagne pour d'autres raisons, dans lequel j'ai essayé de répondre à une question assez simple qui m'est parvenue. Alors, je ne vais pas vous parler de ma vie, parce que vous l'avez déjà entendu, mais pour rendre les choses plus claires et plus simples, mes deux parents sont portugais et je suis né en France. Et donc, j'ai obtenu la nationalité française à mes 18 ans. Sauf qu'un jour, je devais avoir 19-20 ans, j'ai reçu une convocation de l'armée portugaise, me demandant de me présenter à la caserne de Porto pour faire mon service militaire. Comme vous l'aurez compris, si j'ai eu une mention assez bien à la licence, c'est que je n'étais pas militariste. Et il y a un lien logique entre les deux. Et je ne pensais pas faire mon service militaire en France, grâce à la réforme de Lionel Jospin, qui faisait que je rentrais dans les populations de jeunes qui n'avaient plus à aller au service militaire. Et donc même l'armée française, et même, je pense, tous les historiens dans un siècle, qui vont vouloir mesurer les pieds, les jambes et le QI des jeunes de 2000, des années 78. Je n'ai même pas fait mes 3 jours, donc je suis un manque dans les recensements futurs. Et donc, quand j'ai reçu ce document, d'une part, je n'étais pas vraiment désireux d'aller apprendre à utiliser des G3 et d'autres armes de l'armée portugaise. Et d'autre part, la vraie question, et là j'en arrive vraiment au cœur, c'est que je me demandais, mais quel pouvoir a cet État qui me considère comme son national ? Personnellement, j'avais strictement rien fait pour être portugais. Autant j'avais fait des choses pour être français en demandant la naturalisation française, mais autant être portugais, j'avais strictement rien fait. C'est mes parents qui avaient été voir un de vos collègues et qui m'avait enregistré quand je suis né. Et donc, cette question en rejoignait une autre, plus scientifique, qui est, comme vous l'avez entendu, j'avais fait mon premier travail de recherche sur les exilés politiques portugais en France de 1958 à 1974. C'est-à-dire qu'il y a eu des milliers, ils sont difficiles à quantifier, de Portugais qui, à partir de l'arrivée de la dictature au Portugal en 1926, donc, je ne vais pas vous faire l'histoire de la dictature portugaise, mais il y a un coup d'État en 1926 au Portugal. En 1928, arrive comme ministre des Finances un professeur universitaire, comme quoi il faut se méfier des professeurs universitaires, qui devient ministre des Finances en 1928. Il s'appelle Antonio d'Oliveira Salazar. Il reste ministre des Finances pendant 4 ans et devient président du Conseil, Premier ministre, en 1932. Et ce Antonio d'Oliveira Salazar va rester président du Conseil, Premier ministre, pendant 36 ans, jusqu'en 1968, jusqu'à ce qu'il tombe d'une chaise et qu'il ait des problèmes au cerveau et qu'il soit obligé d'être démis de ses fonctions. Et donc, dès 1926, il y a beaucoup de Portugais qui quittent le Portugal progressivement de 26 à 31, notamment des anciens présidents de la République, des anciens premiers ministres qui viennent en France. Parce qu'en Espagne, c'était la dictature de Primo de Rivera, donc ce n'était pas très convenable. Et la France était, pour les élites politiques portugaises et les élites intellectuelles portugaises, le grand exemple. Alors que c'était le grand exemple pour la gauche, pour la droite, pour l'extrême gauche, pour l'extrême droite. C'est-à-dire que pour la gauche, les républicains, la France était le grand exemple qu'il fallait suivre. Et notamment, le Portugal est la troisième république en Europe, après la Confédération helvétique, qu'on oublie toujours, après la France, bien évidemment, et le Portugal est une république en 1910. Et dès 1911, dans un pays très catholique, il y a la séparation de l'Église et du pouvoir. Ça ne va pas très bien se passer, ça peut expliquer en partie l'arrivée de César plus tard, mais ça, c'est un autre débat. Et donc, pour la gauche, c'est le grand exemple, mais aussi pour l'extrême droite. C'est-à-dire que, notamment, les idées maurrassiennes de l'Action française vont alimenter une personne comme Salazar, qui va, dans son régime, mettre en pratique, ou du moins suivre, plusieurs idées réactionnaires et antirévolutionnaires. Et notamment, Maurras, quand il sera en prison, après la Seconde Guerre mondiale, écrira des lettres à Salazar, lui disant « Vous êtes l'exemple pour moi, pour toute ma génération, pour tous ceux qui ont communié des idées contre-révolutionnaires. » Donc, il terminait sa phrase par « Tenez, restez au pouvoir le plus longtemps possible pour appliquer nos idées. » Et donc, ce que je voulais comprendre, c'était comment ces exilés qui étaient venus en France, comment des gens comme moi, ben avant, quel pouvoir avait l'État portugais sur eux ? C'est-à-dire, quelles contraintes a un État sur ses nationaux à l'étranger ? Donc là, je vais vous dire très rapidement ce que je dis à tous mes étudiants. J'ai un cours d'histoire de l'État à l'Université de Pau. sur la définition la plus simple de l'État. Je ne sais pas beaucoup développer, ne vous inquiétez pas. Mais il y a un grand sociologue allemand qui, au début du XXe siècle, a donné une définition de l'État qui est quasiment celle qu'on garde jusqu'à maintenant. L'État, c'est une organisation qui exerce le monopole de la violence légitime sur un territoire donné. Max Weber, 1919 ou 1924, il y a plusieurs versions. C'est la principale définition. Et donc, vous voyez, ce qui est important, c'est donc la violence légitime, c'est-à-dire la policier, les CRS, etc., etc., mais sur un territoire donné. Et moi, ce que je voulais comprendre, c'est comment une violence à la fois une violence physique, mais ceci une violence, une contrainte sur des individus qui ne peuvent pas faire tout à fait ce qu'ils voudraient faire à cause de cet État. Et donc, comment cet État peut exercer des contraintes sur ses ressortissants étrangers, sur ses Portugais. Je vais vous donner une anecdote très simple que j'avais découverte lors de mon année de maîtrise. Vous connaissez tous mai 68. Vous savez tous qu'il y a eu des grandes révolutions, des grandes manifestations. Les Portugais se sont singularisés un petit peu. C'est qu'au début des années 60, il y avait des bidonvilles autour de la région parisienne où se sont concentrés beaucoup de Portugais. Les Portugais arrivent, j'en parlerai un peu plus tard, clandestinement, avaient très souvent, j'ai trouvé ça dans les archives notamment, des petits bouts de papier où, sur ces petits bouts de papier, il y avait une adresse. Griffonnet, c'était soit un cousin, soit quelqu'un de leur village qui était parti avant eux et qui leur avait donné cette adresse. Alors, parfois, avec des fautes d'orthographe, évidemment. Puisque et notamment, j'ai trouvé des petits papiers avec Saint-Pigny, qui voulait dire Champigny, qui est une ville de l'Est parisien, où il y a eu un grand bidonville, où ont vécu jusqu'à 15 000 Portugais. 15 000 personnes. Ça veut dire que le Portugal, à l'époque, c'était quasiment la troisième, voire la quatrième ville du Portugal en 65. Après, quatrième, on va dire, cinquième, après Lisbonne, Porto et Coimbra. C'était une ville énorme. Il y avait aussi de grands bidonvilles à Saint-Denis, le bidonville des Framboisins, ou à Massy, que notamment un cinéaste que vous connaissez peut-être, José Vieira, a beaucoup travaillé sur ce bidonville de Massy où il a vécu quand il était jeune. Et donc, ces Portugais, parfois, venaient avec des petits bouts de papier et venaient clandestinement, en traversant la frontière portugaise, puis le territoire espagnol, puis rentrer en France. Et il s'est amoncelé dans ce bidonville. Et en 68, face aux grèves, face aux manifestations, il y a eu des cars, des autobus, qui sont rentrés pleins de Portugais, et notamment un article du Monde à cette époque-là. Et la raison qui était donnée était qu'ils avaient peur d'une révolution ou d'une guerre civile en France. Et qu'ils avaient extrêmement peur, et qu'ils étaient venus ici pour travailler, et non pas pour faire la révolution. Et donc, certains d'entre eux sont revenus au Portugal. Et notamment, il y a un documentaire de José Vieira qui le montre. Il va voir des gens qui ont été dans le bidonville de Massy, qui sont rentrés très apeurés en mai 68. Donc, ça pourrait nous paraître tout à fait étrange comme comportement. Mais d'une part, ça nous indique, et après, j'ai vu d'autres sources, où notamment, les autorités françaises, notamment la préfecture de police de Paris, voulaient faire des enquêtes. Imaginez, vous êtes préfet de police de Paris, vous avez 15 000 personnes qui, en 4 ans, viennent s'établir dans un bidonville. Vous rajoutez 5 000 à... Donc, ils ont voulu faire des enquêtes, tout naturellement. Et donc, ils ont demandé à des étudiants d'aller faire des enquêtes sur le bidonville. Ces enquêteurs de la préfecture, souvent des jeunes, ont à peine pu rentrer dans le bidonville. Parce que les gens avaient extrêmement peur. Personne ne voulait leur répondre. Et surtout, ces bidonvilles étaient contrôlés par ce qu'on appelle maintenant, ou qu'on appelait déjà à l'époque, des vendeurs de sommeil, c'est-à-dire des gens qui avaient acquis des terrains et qui vendaient des boîtes en tous les matériaux possibles et imaginables, mais surtout en bois, où vivaient des gens. Et ces gens-là, évidemment, ne voulaient pas trop que les autorités françaises mettent leur nez dans leurs affaires qui étaient assez rentables. Et donc, on fait courir les bruits. Courir le bruit que les gens qui venaient, en fait, étaient des agents de Salazar, étaient des agents de la PIDE, et qui diraient tout ce qu'ils diraient au Portugal à Salazar lui-même. Et à d'autres reprises, ce n'est pas juste une anecdote, à plusieurs reprises, un jour, il y a un ancien ministre portugais qui vit en France et qui se dit « Je suis en France, je vais faire un tour dans le bidonville de Champigny ». Il était assez, il voulait comprendre comment ça fonctionnait. Et il dit que dès, comme il était bien habillé, avec un costume cravate, à peine était-il rentré dans le bidonville, que tout le monde fuyait, pensant que c'était un policier. Et comme ça, les anecdotes sur la peur, la crainte qu'avaient les Portugais en France vis-à-vis de l'État portugais, j'en ai des dizaines et des dizaines, et je pourrais vous en évoquer énormément. Ce qui explique notamment que les Portugais, pour la CGT ou la CFDT, pour les autres syndicats, n'étaient pas une très, très bonne clientèle. Alors, il y a eu des Portugais qui sont mobilisés, qui sont syndicalisés, notamment dans certaines entreprises, mais en règle générale, les syndicats, j'étais aux archives des syndicats de la CGT et de la CFDT, avaient beaucoup de difficultés. Pourquoi ? Parce que ces personnes étaient d'une part venues irrégulièrement. et j'essaierai de vous expliquer pourquoi ils étaient venus régulièrement. D'autre part, beaucoup d'entre eux, alors peut-être que parmi vous, il y a des Portugais, parmi vous, il y a des gens qui connaissent des Portugais, mais beaucoup d'entre eux étaient venus en France 3, 4, 5, 6, 7 ans. Très souvent, les gens qui venaient du nord du pays, qui étaient le nord du pays, donc le Minho, Tajumont, Ajbeilash, sont des régions de petite agriculture familiale. C'est-à-dire que, alors, il y a des terrains qui sont très morcelés, un grand terrain, ça peut être une pièce comme celle-ci, en fait, qui va être morcelée. Une famille pouvait obtenir différentes divisions. Et on essayait, plus ou moins, en dépit des différentes lois, de maintenir cette propriété. Et beaucoup partaient en espérant de pouvoir revenir au Portugal, pouvoir acheter d'autres terres, pouvoir mieux se marier, avoir une maison, pouvoir se marier, avoir une maison et quitter la maison familiale. Et très souvent, il y avait des stratégies à court terme ou à moyen terme. Et il y a beaucoup de Portugais qui sont aussi revenus très rapidement au Portugal. Si maintenant vous allez, surtout l'été, pas trop l'hiver, dans les villages du nord du Portugal, à partir du mois de mai, vous y trouverez beaucoup de gens qui ont vécu 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans au Portugal et qui maintenant, on dit que les Portugais sont presque les meilleurs Européens parce qu'ils vivent vraiment l'espace européen. Ils passent 3 mois de l'année en France, puis 3 mois de l'année au Portugal, puis 3 mois de l'année en France, puis 3 mois de l'année au Portugal, ainsi de suite, en fonction de leur famille, de leurs besoins médicaux, etc., etc. Ils vivent pleinement tous ces territoires. Donc il y a aussi cette stratégie, ces gens-là craignaient que si on les dénonçait à la PIDE, la PIDE c'est la police politique au Portugal, entre 1945 et la fin, même si ça a changé de nom, craignaient toujours, la police politique avait réussi à faire passer cette impression au Portugal qu'elle surveillait tout, qu'elle contrôlait tout, qu'elle savait tout. Et si vous faisiez de la politique, alors la politique c'était une exception très très large, hein. Dire un jour dans un café que Salazar était je ne sais pas quoi, c'était déjà faire de la politique. Et donc, toutes ces populations craignaient comme au Portugal, même s'ils n'avaient pas vu de la PIDE, parce que la PIDE n'était pas très présente à la campagne, sauf dans les frontières et sauf dans certaines villes, craignaient vraiment que s'ils disaient un mot de travers, que s'ils faisaient quelque chose qui éventuellement pouvait poser problème, ils pouvaient être dénoncés. Et à partir de là, leur famille pouvait avoir des problèmes, parce que très souvent, ceux qui venaient en premier, c'était les hommes. Ils laissaient leurs femmes, parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour la... On n'allait pas ramener des femmes dans des bidonvilles, quand même. Bon, il y en avait certaines qui y ont vécu. Mais donc, où très souvent, on allait... D'abord, l'homme venait pour voir comment ça se passait, s'il trouverait du travail, des conditions, etc. Et après, au bout d'un certain moment, faisait venir femmes et enfants. Enfants, il y a beaucoup d'enfants qui sont restés des années et des années avec leurs grands-parents. Parce qu'on considérait que c'était trop difficile et que la vie en France, c'est une vie de travail. Je devais très tôt le matin, revenir très tard le soir, etc. Donc, on n'avait pas le temps de s'occuper des enfants. Et donc, on les laissait. Et donc, ces gens-là avaient une peur bleue qu'un jour, quelque chose fasse qu'ils ne puissent pas retourner au Portugal. Ou qu'il arrive quelque chose à leurs parents, à leurs femmes, à leurs oncles, etc. Donc, ils ne faisaient strictement rien. Donc ça, vous voyez, c'était la première idée qui a été à l'origine de cette thèse, qui à l'origine, alors vous me direz que le livre est long, mais à l'origine, ma thèse faisait 900 pages. J'ai passé énormément de temps à la couper, et donc là, c'est quasiment le best-of de ma thèse à l'origine de 900 pages. Et donc, au début, j'ai essayé de comprendre cela, mais j'en suis arrivé à d'autres questions. Pourquoi les gens partaient illégalement ? Pourquoi illégalement ? Qu'est-ce que ça voulait dire ? C'est-à-dire qu'ils partaient illégalement vis-à-vis de 3 pays, ce qui n'était pas rien. Ils partaient illégalement vis-à-vis de l'État portugais. Et donc partir illégalement vis-à-vis de l'État portugais, c'était partir sans passeport. Alors maintenant, c'est tout à fait courant pour nous d'avoir un passeport. Mais au Portugal, jusque dans l'année 1974, il était très difficile d'avoir un passeport. Il était tellement difficile qu'il existait 2 types de passeports. Le premier passeport, c'était le passeport de tourisme, pour faire du tourisme, pour aller en Espagne, pour aller à Paris, voir la Tour Eiffel. Mais ce passeport de tourisme, les autorités salazaristes, donc dirigées par Salazar, avaient une conception très paternelle du peuple. Et considéraient notamment que le peuple considérait les paysans, les ouvriers, une grande partie de la population, ne faisait pas du tourisme. Ils n'avaient ni l'éducation, ni les moyens pour cela. Et donc, était interdit aux travailleurs ruraux et à tous les travailleurs de force, ouvriers, etc., d'avoir un passeport de tourisme. Qu'on considérait que ces gens-là ne faisaient pas du tourisme, ils n'avaient pas les moyens pour ça. Si vous allez éventuellement aller en Espagne pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, on leur donnait un papier spécifique, etc., mais pas de passeport de tourisme. Le passeport de tourisme était réservé aux classes moyennes, aux classes moyennes supérieures, qui, elles, avaient les moyens et l'intérêt de faire du tourisme. Donc, pour les autres, la grande partie de la population, il y avait des passeports d'émigration. Couleur verte, si je ne m'abuse. Et avoir un passeport d'émigration, ce n'était pas simple du tout. C'est-à-dire que pour avoir un passeport d'immigration, il fallait remplir plein de papiers. Alors j'avais compté, il fallait au minimum remplir 16 formulaires. Alors la bureaucratie portugaise à l'époque était une bureaucratie d'une lenteur. Mais d'une lenteur. Et d'un esprit tatillon, mais très tatillon. En plus, c'était une administration qui n'était... Alors, c'est pas du tout... On ne parlait pas d'usagers, de services publics. C'était... Il y a beaucoup de travaux d'ethnologie sur ça, sur les campagnes. C'est une administration assez dure. C'est-à-dire dure, faible avec les puissants et puissante avec les faibles. C'est-à-dire que pour la plupart des Portugais des campagnes, aller à la mairie, c'était un peu une épreuve. D'une part, les mairies... Alors, une mairie, une commune au Portugal, c'est un peu comme un canton. C'est-à-dire que si vous êtes, comme mes parents, de la commune de Ponte de Lima, vous pouvez habiter à 20 km de Ponte de Lima. Et aller à Ponte de Lima, comme il n'y avait pas de bus, vous n'avez pas les moyens pour aller en bus, c'était une journée à pied dans les chemins de montagne. Donc aller à la mairie, ce n'est pas comme aller dans notre mairie ici, ce n'est pas simple. D'autre part, c'était d'une part s'assujettir à des longues files d'attente, et d'autre part être reçu par des fonctionnaires qui n'étaient pas du tout évalués, comme de nos jours, en fonction du service prêté à la communauté, qui était souvent d'une certaine arrogance, et qui, en plus, avait souvent des salaires pas très élevés. Et donc, quand on parle de fonction publique avec des salaires peu élevés, c'est une fonction publique qui est souvent amenée à vous demander des pourboires. Il y avait même quasiment des tables de sommes à payer pour les différents actes que vous pouviez demander. Et donc, en plus, pour en rajouter, pour faire des papiers, il faut les remplir. Pour remplir des papiers, il faut savoir lire et écrire. Et le Portugal de Salazar ne s'est pas vraiment illustré par une grande volonté d'éduquer le peuple. C'est-à-dire, il y a eu l'école... la plupart des Portugais que vous connaissez en France, la plupart, hein, pas tous, qui sont venus aux années 60-74, ont pour la plupart 4 ans d'école primaire. L'école primaire a été obligée pendant 4 ans, à partir de la fin des années 50, début des années 60. Et on considérait qu'il était important que le peuple sache lire et écrire, mais s'ils avaient plus que cela, ça pouvait devenir dangereux. Un peuple éduqué peut éventuellement revendiquer 2-3 choses, ce qui n'était pas tout à fait le projet de Salazar. Et donc, beaucoup de personnes, et même des personnes âgées ou même des personnes plus jeunes, ne savaient pas lire et écrire. Donc, pour remplir les formulaires, c'était compliqué. En plus, remplir les formulaires portugais sur un papier qui était toujours timbré, donc il fallait payer. Donc, il y avait partir illégalement, c'était énormément de papier. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'était s'assujettir, aller à la mairie, payer des pourboires. Et en plus, c'était faire face à une institution qui est un des principaux acteurs de mon livre, qui s'appelle la Junte de l'immigration. La Junte de l'immigration est une institution qui a été créée en 1947 pour gérer l'immigration. Pour vous montrer un peu l'esprit d'ouverture de cette junte a été dirigée pendant 20 ans par un colonel de l'armée. Je n'ai jamais bien compris pourquoi, après avoir consulté des dizaines et des dizaines de milliers de documents de cette junte, pourquoi ce colonel de l'armée avait été nommé président de la Junte d'immigration, parce qu'il avait très peu de sensibilité vis-à-vis de l'immigration. C'est-à-dire que ce n'était pas quelqu'un qui avait, de par son cursus personnel, ou du moins je n'ai jamais compris pourquoi il avait été nommé par Salazar ou par le ministre de l'Intérieur en 1949. Et donc cette junte d'immigration n'existait qu'à Lisbonne et avait une antenne à Porto. Et en fait, donc, si vous aviez deux moyens pour émigrer légalement en France, soit quelqu'un de votre famille ou un proche, vous avez dégoûté un contrat de travail en France. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaillait chez Renault, ou imaginons, hein, chez Mola, ça n'existait pas, mais bon. Mola, un de ses employés, excellent au demeurant, comme tous ses employés, qui vend des livres et ont besoin d'un autre vendeur de livres portugais. Donc, il pouvait faire un contrat de travail qui est envoyé à l'ONI, l'Office national d'immigration, puis à l'agent d'immigration qui demandait, on voudrait embaucher Victor Pereira, qui habite au Portugal, et un contrat de travail. C'est le premier moyen, le plus simple. C'était trop simple. L'agent d'immigration va avoir comme objectif très fort, d'empêcher ce type d'immigration qu'elle ne veut pas contrôler. Et donc, elle va commencer à écrire sans aucun... Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de décret-loi, il n'y a pas d'assemblée, il n'y a rien. C'est juste le colonel qui décide pour éviter cela. Alors, il faut que entre la personne qui envoie le contrat et la personne qui le reçoit, il faut qu'il y ait un lien familial jusqu'au troisième degré. Il faut ensuite que si c'est en France, hein, seulement si c'est en France, qu'on ne voulait pas l'immigration vers la France, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Si c'est en France, il faut que la personne qui a immigré, le lien avec le travailleur qui veut partir, il faut qu'il soit parti légalement, ce qui était quasiment impossible, donc c'est un cercle vicieux. Ensuite, si Mola, tout à coup, est rendu au charme et au professionnalisme des vendeurs portugais, chaque entreprise est limitée à 20 employés. C'est-à-dire que, bon, pour Mola, ça va, mais pour Renault, qui pouvait embaucher des Portugais par centaines, par Citroën, très très vite, il ne pouvait pas embaucher des Portugais comme ça. Donc ça, c'est le premier moyen, et tout a été fait pour que ça ne puisse pas fonctionner. Le deuxième moyen, ça a été de faire de l'immigration dans le cadre d'accords entre l'ONI et la junte d'immigration. C'est-à-dire que la France, à partir de 1940, en fait, mais même avant, mais je pourrais remonter un peu plus avant, la France, à partir de 1916, veut des Portugais, a besoin de Portugais. En 1916, je commence par là, parce qu'il y a une première convention entre la France et le Portugal pour la venue de Portugais en France. Comme vous le savez peut-être, le Portugal a envoyé des troupes en France et il y a beaucoup de Portugais qui sont venus en France, soit se battre dans les Flandres et notamment subir de très fortes pertes le 9 avril 1918 à la bataille de la Lys, soit venir travailler. Parce que comme les hommes français, les paysans, les ouvriers étaient partis au front, on avait besoin de travailleurs. Donc, il y a beaucoup de Portugais qui sont venus. Puis, la France a toujours voulu faire venir des Portugais, se faire signer des accords avec le Portugal. Le Portugal, même sous la Première République, ne voulait pas trop. Donc, il y a des gens qui sont venus, mais de façon un peu éparse. De nouveau, en 1939, la France est en guerre. C'est un drôle de guerre. On a besoin de soldats sur le front. Et là encore, on a besoin pour alimenter l'armement de guerre, etc., le début de le rarement qui commence avec le Front populaire, on a besoin de travailleurs. Une des principales sources de la France, c'est l'Italie, les émirs italiens. Les Italiens, en 1939, pour les faire venir en France travailler, alors que l'Italie et la France ne sont plus les meilleurs amis du monde, c'est un peu compliqué. Il y a les Grecs. Les Grecs, c'est un peu loin. Et en plus, l'Italie contrôle un peu l'Adriatique. Les Espagnols, c'est la guerre civile. Les relations avec l'Espagne de Franco sont pas très bonnes, elles seront encore pires après. Et donc, qu'est-ce qui reste, notamment ? Le Portugal. Et donc, on dépêche les émissaires au Portugal pour signer un accord de main-d'œuvre, etc. Salazar, au bout de longues négociations, accepte. Et en avril 1940, il y a un accord d'émigration entre la France et le Portugal qui prévoit l'avenue de 30 000 Portugais en France pour l'effort de guerre. Patatras, la France, l'accord est signé 30 avril. La France, comme vous le savez, est envahie en mai-juin 1940. Cet accord n'est jamais appliqué. En 1944-45, la France, sachant qu'il y aura la reconstruction, sachant qu'il y aura de main-d'œuvre, redemande au Portugal d'appliquer l'accord de 40. Que fait la dictature portugaise et le ministère des Affaires étrangères ? Nous ne voulons pas, l'accord est nul et non avenu, nous ne voulons pas de nouvel accord, nous n'avons pas d'émigrants à exporter, entre guillemets. C'est-à-dire, le discours est, d'une part, nous n'avons pas d'émigrants, nous avons notre propre développement, qui est important, et surtout, et là, ça va être le discours lancinant jusqu'au 25 avril 1974, si nous avons des excédents de main-d'œuvre, ces excédents de main-d'œuvre doivent aller dans les colonies. Car le Portugal, jusqu'en 1974, a un empire. Un empire avec les deux principaux joyaux de Saint-Pierre, c'est l'Angola et le Mozambique. Et le grand rêve, depuis les années 1830, mais jusqu'en 1974, de l'État portugais, c'est d'envoyer des millions de colons en Angola et au Mozambique. Et donc, toute la propagande et tout le discours va être « Nous n'avons pas d'excédent de main-d'œuvre. D'une part, nous devons moderniser le pays. Et si nous avions des excédents de main-d'œuvre, ce n'est pas vers la France qui devrait aller, c'est vers l'Angola et le Mozambique. Au pire, ils peuvent aller vers le Brésil. » C'est-à-dire que le Brésil, il y a une longue tradition. Au Brésil, on parle portugais. Ce qui se cache derrière tous ces arguments, c'est évidemment que la France fait peur à la dictature. La France fait peur pourquoi ? Parce que d'une part, les Français font toujours peur. Deuxièmement, parce que la France, c'est la France de la Révolution française. C'est une France laïque. C'est une France où, imaginez, en 1945-1947, il y a des ministres communistes au gouvernement. Chose inconcevable pour Salazar. Et la France est dépeinte, jusque dans les années 60, comme une sorte d'enfer, tout simplement. C'est-à-dire que si vous lisiez la presse portugaise des années 60, qui est évidemment censurée, et quand vous lisez les articles sur la France, comme j'ai pu le voir, en France, il n'y avait que grand 1, du chômage, grand 2, la crise, grand 3, des bidonvilles, parce que c'était la seule chose que le gouvernement portugais voulait laisser passer. Pour dissuader les Portugais d'émigrer, d'une part, les Portugais ne lisaient pas tous la presse, et d'autre part, ils n'étaient pas très crédules, du moins dans ce domaine-là, mais c'était toujours des dépeints de la France comme dangereuse. Et même dans les villages d'où viennent les émigrants, c'était vraiment une idée très forte chez les élites. J'ai vu notamment une fois une lettre d'un maire qui ne voulait pas qu'il y ait de recrutement dans son village, car il disait que les Portugais qui étaient venus en France étaient revenus communistes. Alors, la définition de communiste pour un conservateur portugais est très large. dès que vous dites que la démocratie serait peut-être une bonne chose, vous êtes déjà communiste. Et si vous pensez qu'il faut l'implanter au Portugal, vous êtes subversif. Donc, il ne fallait pas. Et d'autre part, on considérait que le Portugal était une sorte d'oasis morale. La conception qu'avait la dictature et qu'elle avait réussi à exporter jusqu'en les années 50, avant l'immigration, était que le Portugal était un pays certes pauvre, mais où les gens étaient heureux. Le pays était pauvre, mais parce que les gens préféraient les valeurs spirituelles. Et ça, je l'ai vu. Et donc, ils préféraient vivre dans une certaine solidarité. Donc, on dépeignait les campagnes portugaises comme une sorte de paradis où les gens travaillaient, avaient certes une vie modeste. Mais c'est des écolos actuels, très, très écolos. C'est-à-dire que c'était le discours de la décroissance. On n'a pas besoin de quoi que ce soit, d'objets pour être heureux. C'était un peu comme ça que la dictature dépeignait le Portugal des campagnes. Et donc, pour toutes ces raisons-là, le Portugal ne voulait pas signer l'accord. Néanmoins, à partir donc, du début du livre, en 1957, il y a un début d'émigration clandestine. Les gens étaient toujours allés au Portugal. On retrouve notamment des gens, surtout, si vous voyez une carte du Portugal, il y avait certains villages qui s'étaient spécialisés depuis très longtemps dans l'émigration vers la France, notamment dans la région de Melgaço, qui est dans le nord du Portugal, à côté du Minho, de la Galice, et notamment un village comme Cachoeira, qui est un montagne un peu mythique, parce qu'il est dans une colline, etc. Des gens avaient déjà commencé à émigrer dans les années 30. Beaucoup d'émigrés qui étaient venus, peut-être votre grand-père, on en reparlera tout à l'heure, étaient venus en France en 1916, étaient venus dans l'entre-deux-guerres, et beaucoup d'entre eux, là on en reparlera peut-être tout à l'heure, on dit toujours que les Portugais sont bien intégrés, etc., etc. Je ne dis pas le contraire, mais notamment les années 1930, comme vous le savez, il y a une crise économique. Et à l'époque, on faisait un peu moins dans la délicatesse que de nos jours. Face à la crise économique, ce qu'on a fait, c'est que d'une part, on a fermé les frontières. Et quand il y avait toujours du chômage, on a commencé à renvoyer massivement les immigrés. Les principales victimes de ces renvois massifs ont été les Polonais. Mais il y a aussi énormément de Portugais qui ont été renvoyés, à qui on n'a pas renouvelé les cartes de séjour, le cadre de travail, et qui ont été obligés de revenir au Portugal dans les années 30. Et donc, après, timidement, on voit dans les statistiques ou dans des approches plus locales que dans certains villages de la frontière, il y a timidement des gens qui commencent à migrer, des pionniers souvent. Et après, ces gens-là, ces pionniers, dans les années 50, quand Mola leur demande, on va prendre Mola toujours comme exemple, mais c'est surtout Renault ou dans les entreprises de bâtiments, ou à Michelin, par exemple. Il y a énormément de Portugais à Michelin, à Clermont-Ferrand. Disent, mais on a besoin de main-d'œuvre, on n'a plus de main-d'œuvre, etc., parce que la guerre d'Algérie, il y a beaucoup de. Bon. Est-ce que tu n'auras pas un cousin, quelqu'un ? Et à partir de là, tous ces réseaux migratoires informels vont se remettre en marche. Et après, ça fait un peu un effet de boule de neige. Les premiers partent, arrivent, au bout de 3 ans, il faut bien imaginer ce que c'était comme révolution, et je pèse mes mots, de révolution qu'a constitué l'émigration au Portugal. Vous avez des gens qui repartaient, alors ce n'était pas les plus pauvres qui partaient, parce que les plus pauvres, il faut payer les passeurs. Il faut un peu investir. C'est-à-dire qu'un voyage, c'est long, ça coûte cher. Un passeur, dans les années 60, c'était 10 000 escudos. C'était une fortune. Et donc, il fallait s'endetter. Et on ne prête qu'aux riches, ou du moins, on part aux plus pauvres. Il fallait obtenir de l'argent de quelque part. Et donc, venir, c'est un investissement. Donc, c'était souvent ces petits propriétaires, ces petites familles, où on se cotisait pour permettre à un membre de la famille de partir. Et donc, ces gens-là sont partis avec peu de choses. Certains revenaient au bout de 3 ans avec une voiture. Pour nous, c'est tout à fait évident. À l'époque, dans les années 60, qui avait des voitures dans les campagnes portugaises ? Juste les gens les plus riches, les notables locaux, l'avocat en ville. Des gens venaient avec des voitures. Ils osaient même après, et ça c'est un discours lancinant jusqu'à nos jours au Portugal, ils osaient même construire des maisons. Et des maisons type pavillon. C'est-à-dire qu'au Portugal, beaucoup, une partie des classes moyennes se moquent. Alors c'est, vu de France, c'est toujours assez étonnant. Moi j'ai vu les mêmes films en France et au Portugal, notamment les films de José Fierro. Quand vous regardez un film de José Vieira en France, un public français, les gens vous disent toujours, c'est quand même merveilleux, ces gens qui sont partis, assez pauvres, qui ont travaillé pendant 40 ans pour se construire une maison, certes grande, certes un peu classieuse, qui un peu ostentatoire, mais ils le méritent, ils ont travaillé. Au Portugal, le même film, vous allez entendre des rires de moquerie. C'est-à-dire que c'est vu comme une sorte de crime de lèse-majesté. C'est-à-dire que ces gens qui étaient pauvres et qui osaient revenir en faisant des maisons d'une certaine qualité, sont vus comme des gens qui ont complètement changé la hiérarchie sociale. Et le pays, le Portugal, est un pays très hiérarchique. Et donc ces gens-là ont complètement bouleversé. Et donc vous imaginez, au début des années 60, quand on a commencé à voir des gens qui partaient et qui revenaient avec une voiture, alors parfois il y avait certains qui C'en était un peu pour avoir la voiture, mais d'autres qui gagnaient raisonnablement bien leur vie. Il y avait aussi, ce qui se comprend, une volonté de montrer qu'on avait réussi. Quand on part, quand on fait quelque chose, on veut toujours montrer qu'on a réussi, plutôt qu'on a échoué. Et donc, quand des gens voyaient des gens revenir avec de l'argent, et après, très souvent, les gens venaient soit au début de l'hiver, quand il n'y avait pas de travail en France, dans le bâtiment, chez Mola, il y a tout le temps du travail, mais dans le bâtiment, l'hiver, quand il pleut, souvent, les gens revenaient. Et après, l'été, le sacré mois d'août. Et donc, c'est un mois, le mois d'août, au Portugal, jusqu'à il y a quelques années, maintenant, ça a un peu changé, c'était un peu, dans les villages, c'était une énorme fête. C'est-à-dire que déjà, toutes les fêtes religieuses qui étaient au cours de l'année, on les a toutes mises au mois d'août. Comme ça, la communauté en tant que telle pouvait être réunie au mois d'août. Ensuite, les immigrés, ils ont un peu un rôle social. C'est d'expliquer comment c'est beau la France, comment en France on peut bien vivre, comment on peut bien travailler, si on travaille dur, évidemment. Et donc, ça fait une boule de neige. Et après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette boule de neige a été énorme. C'est-à-dire qu'en 69, 70, 71, il y a plus de 100 000 Portugais chaque année qui viennent en France. 100 000 Portugais, pour donner une idée, j'ai consulté les archives, notamment à la gare d'Hendaye. Donc la photo qui est ici, c'est une magnifique photo de Gérard Bloncourt. Gérard Bloncourt est un photographe donc d'origine haïtienne et qui était intrigué depuis sa plus tendre enfance par le Portugal. Et donc il a été au Portugal en 64-65, prendre des photos au Portugal et suivre des immigrés clandestins. Il y a des très très belles photos d'émigrés dans la montagne. Et là, c'est la gare d'Hendaye, qui pour les Portugais est une gare mythique, parce que c'est la première gare, leur premier sas d'entrée en France. Et à la gare d'Hendaye, en 69, 70, 71, il y avait tous les jours 400 Portugais qui arrivaient pour la première fois. 400 Portugais. Vous imaginez juste si aujourd'hui, il y avait chaque jour 40 Tunisiens ou 40 Mexicains qui rentraient en France tous les jours. Ça provoquerait beaucoup de débats dans les journaux télévisés. Là, tous les jours, c'était 400. C'est-à-dire que rien qu'en 1970, je crois que c'est 130 000 personnes. Alors, moi, je vis dans la ville de Pau, qui fait 80 000 habitants. C'est-à-dire que si la ville de Pau, on pouvait remplir deux villes de Pau en une seule année, rien que de Portugais. Vous voyez un peu l'étendue. C'est l'immigration portugaise, c'est celle en très peu d'années, qui s'est faite de la façon la plus intense. C'est-à-dire qu'il y avait 20 000 Portugais à la fin des années 50, il y en a 750 000 en 1974. Il n'y a pas de... À part la guerre civile espagnole, qui a amené un énorme flux de façon très rapide, il n'y a pas d'autre chose. Et donc, il y a une boule de neige qui fait que beaucoup de Portugais partent. Et donc, l'État portugais, en 63, voit les gens partir, voit que les gens partent en dépit de la surveillance de la frontière, de la surveillance qui est également exercée par la police espagnole, parce que ces Portugais, quand ils partent sans passeport, ils n'ont pas de passeport en Espagne, donc ils sont clandestins. Et il y a beaucoup de Portugais qui se font arrêter par des Espagnols, emprisonnés, puis ensuite envoyés en France. Il y en a aussi certains qui traversent les Pyrénées vers Saint-Étienne-de-Baïgorry dans la montagne, qui font parfois, dans les pires des cas, ils décèdent. Il y a plusieurs cas de personnes qui sont hélas décédées, ou parfois sont arrêtées en France, qui ne les renvoient pas le plus souvent. Et donc l'État portugais, pour essayer de contrôler ça, fait un accord de main d'œuvre avec la France, en 63. Un accord d'immigration. Le but, c'est pas de favoriser l'immigration, c'est de dire, l'État portugais disait toujours, à la fin des années 50, le problème de l'immigration, c'est de votre faute. Vous acceptez tous les Portugais qui rentrent en France. Et donc, comme les Portugais savent qu'ils vont pouvoir rentrer en France clandestinement et se régulariser, ils continuent de venir. Et les passeurs qui sillonnaient, donc les passeurs et les rabatteurs, qui sillonnaient les villages de marché en marché, de taverne en taverne, disaient aux émigrants, émigrez, donnez-moi 10 000 escudos, on vous ramène en France. Si vous faites arrêter et que vous ne nous dénonçons pas, on vous ramène encore une fois et vous y arriverez au bout d'un moment. Et au début, vous régulariserez assez facilement. Et ensuite, vous pourrez rentrer au Portugal au bout d'un certain nombre d'années. Donc l'État portugais disait à l'État français, c'est votre faute. Si il y a l'immigration clandestine, c'est que vous ouvrez les vannes, entre guillemets. Et donc, on en arrive à un accord d'immigration. Et l'accord d'immigration ouvre une nouvelle possibilité pour émigrer. Ça veut dire que maintenant, pour émigrer en France, tous les semestres, les grandes usines, Mollard, Renault, Citroën, Michelin, font des demandes de travailleurs au Portugal. Et après, l'agent d'immigration va recruter de village en village des travailleurs. Ça, c'était ce qui était écrit sur le papier. C'est ce qui ne va être jamais exécuté. Pourquoi ? Parce que l'agent d'immigration a signé l'accord juste pour fermer les vannes, pas pour ouvrir l'immigration. Et d'autre part, c'était un fonctionnement qui donnait beaucoup d'importance aux maires. C'est-à-dire que c'était aux maires de chaque ville d'ouvrir sur leur municipalité des listes où les gens qui voudraient immigrer pourraient s'inscrire. La plupart des maires du nord du pays ne voulaient aucune liste. Et j'ai eu notamment des cas où, dans la Guarda, donc dans le nord du pays, où des gens avaient su qu'il y avait à voir deux inspecteurs de la junte d'immigration qui allaient venir embaucher des gens pour la campagne de la betterave. Alors la campagne de la betterave, c'était très particulier. Dans le nord de la France, notamment dans la Somme, il y avait pour la betterave, le binage, etc., ça prend une saison, quelques mois, et on avait besoin de travailleurs. C'est un travail assez rude, assez difficile physiquement. Et donc, depuis de très longues années, on employait des Portugais qui venaient juste 3-4 mois venir en France, après repartaient. Et ça plaisait aux autorités portugaises. En plus, le calendrier agricole était bon. C'était pas en même temps que les moissons, etc. Donc, on laissait venir des gens. Et notamment, un des auteurs portugais que vous connaissez probablement, et qui est prix Nobel de littérature, le seul portugais qui est prix Nobel de littérature, José Saramago, dans un de ses premiers romans, qui s'appelle Le Vantage do Chão, à un moment, il parle de cette immigration. Parce qu'il parle de l'Alentejo et c'était sur l'Alentejo. Et donc, ces villageois, sachant qu'il y allait avoir des inspecteurs qui allaient faire des recrutements pour la campagne de la betterave, vont à la mairie. Alors, et pensant que peut-être il va y avoir moyen d'obtenir un passeport. Il y a 200 personnes qui viennent. La rumeur a circulé. Le maire, voyant cela, que fait-il? Il envoie la police qui, alors moi j'ai les termes diplomatiques du rapport, qui disperse la foule. Donc vous imaginez rien que le pouvoir qu'avaient ces maires. Donc ça veut dire que pour pouvoir émigrer légalement, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire qu'il fallait dépasser différentes bureaucraties et différents refus. Et Salazar fera toujours attention à ce que les maires aient une grande importance dans tous les choix. Et donc, plus que le pouvoir de Salazar en lui-même, c'est ceux qui résistaient à l'immigration légale, c'est les notables, les maires, les grands propriétaires du nord et du centre du pays, ceux qui, les industriels. C'est-à-dire que notamment autour de Porto, il y avait une industrie textile, un peu un des berceaux de l'industrie. Et l'industrie textile du Portugal, qu'est-ce qu'elle emploie? Surtout des paysans qu'on appelle semi-prolétarisés. Des gens qui travaillent à l'usine, des femmes ou des enfants, très tôt, qui travaillent à l'usine, mais qui ont des terres. Ça permet toujours, quand des gens ont des terres, de moins les payer. Et s'il y a une crise de travail, vous les renvoyez chez eux, ils ont des terres, ils ne vont pas mourir de faim. Ce n'est pas un prolétariat moderne, etc. Et donc toutes ces personnes-là vont se mobiliser. C'est ce que je décris. C'est elles vont se mobiliser, écrire des lettres au ministère de l'Intérieur, à Salazar, auprès des députés, et ils ont un énorme poids. Ce qui fait que les lois vont être très répressives. Et non seulement il était difficile de quitter légalement le pays, mais comme c'était très cher si vous étiez arrêté. C'est-à-dire qu'en 61, après les guerres coloniales, le début des guerres coloniales, il y a une nouvelle loi qui sort, qui indique que l'immigration clandestine devient un crime. Ce n'est plus un délit, c'est un crime. Et donc, ceux qui émigrent clandestinement peuvent encourir jusqu'à 2 années de prison. Donc si vous êtes pris dans le sac, en train de sortir du pays, vous encourez jusqu'à 2 ans de prison, plus une amende assez conséquente. Si vous êtes arrêté en Espagne et qu'après vous êtes remis aux autorités portugaises, ce qui arrive souvent, normalement, vous étiez jugé et vous passiez 2 ans de prison. De 61 à 69, la plupart des Portugais qui sont venus en France sont des criminels, au regard des autorités portugaises. Et pour être sûr que l'immigration sera limitée, les passeurs, aussi, les lois se durcissent. Ils peuvent encourir jusqu'à 8 ans de prison. Ça, c'est la loi. Donc, vous voyez, tout était fait pour que l'immigration se fasse illégalement. Mais après, une aussi de mes premières motivations, c'est qu'on considère que la dictature de Salazar, c'était une dictature d'ordre. C'était une dictature dirigée par des juristes. On disait souvent que, c'est ça que je vous dis de faire attention aux professeurs universitaires, la dictature César, c'est une dictature de professeurs universitaires. Beaucoup de ministres et de professeurs universitaires. Et le remplaçant de Salazar, Marcelo Caetano, à partir de 68, est professeur de droit. Donc il y a un professeur d'économie politique qui est remplacé par un professeur de droit. Et il est quand même assez... Quand vous avez un phénomène aussi massif, c'est-à-dire que 900 000 Portugais viennent en France, parmi eux 550 000... au bas mot, viennent clandestinement. Est-ce que la loi qui était édictée, promulguée, était vraiment faite pour être respectée? Ça pose un problème. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais, nous, en historien, si vous avez une telle dysfonction ou un tel hiatus entre la règle et son application, est-ce que c'est parce que la loi a été faite un peu comme les lois pour être vue et pour notamment convaincre les élites traditionnelles que le gouvernement faisait quelque chose? Ou est-ce que la police n'a pas réussi? Et donc ça, ce qui m'a été très utile, c'est une des rares annexes du livre, c'est, de façon assez paradoxale, c'est un échec de la PIDE. C'est-à-dire que la police qui devait surveiller les frontières, c'est la police politique. Ce qui montre tout de suite l'importance qu'on donnait à ce sujet. C'est-à-dire que c'était la police politique. Encore hier, un peu plus tard qu'hier, je fais un entretien avec un ancien agent du SDEC, ou du SDES, prédécesseur de la DGSE, qui avait été envoyé à Madrid dans les années 70. Un monsieur, le SDES recrutait souvent des gens plutôt de droite et plutôt anticommunistes. Et j'ai pu le voir hier. Et il me disait, quand il me parlait de la PIDE, ah oui, la PIDE, ça a été... Et c'était comme la Stasi. C'était une police qui était très reconnue, et encore, et de façon justifiée, connue pour être très très dure vis-à-vis de l'opposition. Et très très dure, notamment, vis-à-vis de l'opposition organisée, notamment du Parti communiste et d'autres partis qui s'opposaient à la dictature. Et donc, il y a une sorte de contradiction. Comment la police politique, qui est connue pour être organisée, dure, efficace, a laissé passer 550 000 paysans? Parce qu'en grosso modo, la plupart des personnes qui parlaient, c'était des gens du milieu rural. Comment ils ont laissé passer tous ces gens-là? Alors que la migration est un crime. Et ce que j'ai vu, notamment, c'est un des rapports du directeur de la police, c'est que pour la police politique, l'immigration clandestine, ce n'était pas un problème. C'est qu'il y avait vraiment... La loi était en grande partie faite pour rassurer les élites locales. Salazar, il y avait une expression... il y a deux expressions au Portugal qui sont importantes. C'est notamment pour faire croire aux Anglais. C'est-à-dire que au Portugal, on dit « Ah, mais ça, c'est pour faire croire aux Anglais. » Maintenant, on dirait « C'est pour faire croire au FMI et à la Troïka. » C'est-à-dire qu'on fait des choses, c'est pour faire croire aux autres qu'on le fait, mais après, on ne les fera pas. Et ça, c'était pour faire croire à une partie d'opinion publique qu'on allait respecter, que le gouvernement était dur vis-à-vis de l'immigration. Et d'un autre côté, ce que dit plus ou moins le directeur de la police politique, c'est que d'une part, la police n'a pas les moyens. C'est-à-dire que ce qui est étonnant, c'est que... une frontière, maintenant, on le sait, hein, si on veut boucler une frontière, 61, ce n'est pas une date anodine, 61, la loi des criminels. En même année, il y a un mur qui se construit entre Berlin-Ouest et Berlin-Est qui montre que si un État veut empêcher l'immigration, ce qui était le cas des élites de la République, on peut le faire. Moi, ce que j'ai jamais vu au Portugal, je pensais un jour que quelqu'un allait penser à mettre des barbelés autour du Portugal. Bon, le Portugal, ce n'est pas très grand, il y a des montagnes, mais bon, même des barbelés, même entre le Ghana et le Togo actuellement, donc je n'ai rien contre le Ghana et le Togo, mais il y a 400 km de barbelés entre les deux pays. Il y a des frontières avec des barbelés, c'est assez simple, entre guillemets, à faire. Il n'y a jamais eu le projet de blinder la frontière entre le Portugal et l'Espagne. Parce qu'en fait, d'un autre côté, et notamment, on disait, d'une part, on n'a pas d'agents, et la priorité de la PIDE, c'est les communistes, et les guerres coloniales, ce n'est pas les émigrés. D'autre part, et donc les mettre sur la frontière, c'est perdre de l'argent. Et d'autre part, certains au sein du régime savaient très bien que l'immigration, c'était utile pour le pays. C'était utile pourquoi? D'une part, ces gens qui vivaient dans la misère, qui vivaient éventuellement au chômage, qui avaient des problèmes, et là, ça vous renvoie à une situation actuelle, s'ils vont en France, ils règlent individuellement leurs problèmes. C'est-à-dire qu'entre 58 et 62, il y a eu de très très forts mouvements sociaux au Portugal. Il y a eu des grèves, il y a eu la campagne de Delgado, un opposant à Salazar, et la dictature a eu très peur. Qui est vraiment des grands mouvements de grève dans le sud du pays. Et donc l'immigration, d'un côté, ça offrait une situation individuelle à des personnes. Au lieu que les gens s'engagent, se mobilisent, fassent des grèves, chacun cherche une meilleure vie tout seul à l'étranger. D'autre part, l'immigration, qu'est-ce que c'était aussi? C'était des devises. Et qui plus que Salazar, professeur de finances publiques, qui avait écrit sur ça dans les années 1910, savait que le Portugal, notamment pour financer la guerre coloniale, et l'armement venait d'où, notamment de France. Pour avoir des devises françaises, quel est le meilleur moyen que les touristes français, mais ils n'avaient pas encore trouvé à l'époque, et des émigrés. C'est-à-dire que la balance de paiement du Portugal, le Portugal a toujours été déficitaire en balance de paiement, achetait toujours plus à l'étranger qu'il ne vendait. Avec l'argent des émigrés, le Portugal, depuis des années et des années, n'a jamais de problème, avec l'euro c'est différent, mais jusqu'à l'entrée dans l'euro, n'a jamais eu de problème de devises. C'est-à-dire que les Portugais envoient à leur banque au Portugal de l'argent, et la banque du Portugal a toujours eu des francs, des marques, des francs suisses, sans aucun problème. Ce qui permettait ensuite à Salazar d'acheter des beaux bateaux de guerre à Saint-Nazaire, sans aucun problème de paiement. Et donc, d'un côté, on savait que ça permettait de limiter les contestations politiques, et de l'autre côté, que ça faisait venir de l'argent. Et donc, il y a une sorte d'équilibre instable. Et cet équilibre instable, qui l'a payé, entre guillemets, ben, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les émigrés. C'est-à-dire que, quelque part, les émigrés ont été les victimes d'une sorte de calcul assez machiavélique. D'un côté, on fait croire aux élites qui ne veulent pas que ces gens partent que nous ne les laissons pas partir. Et d'un autre côté, on les laisse partir clandestinement, payant 10 à 15 000 escudos, qui était une fortune, faisant traverser ces gens dans les montagnes, dans les Pyrénées. Ces gens qui n'ont pas de papier en France, éventuellement Mola est une exception qui confirme la règle, mais tous les patrons, notamment dans le BTP, n'étaient pas toujours des anges. Obtenir une main-d'œuvre qui ne parle pas le français, qui n'est pas syndiquée, qui a besoin très très vite d'argent pour rembourser ses dettes, ce n'est pas la main-d'œuvre la plus revendicatrice. Et c'est une main-d'œuvre qui accepte de travailler beaucoup, longtemps, pour le salaire qu'on lui donne, qui, salaire qui lui semblera toujours bien meilleur que celui qu'elle avait au Portugal. C'est une main-d'œuvre aussi, comme elle venait hors d'accord, il n'y avait rien pour les recevoir en France, d'où les bidonvilles. Les bidonvilles sont aussi une partie de cela. Et tout ça, même pour l'État portugais, ça avait beaucoup. C'était pas le fait que sa population parte clandestinement, c'est avec des avantages. Une population endettée qui veut revoir sa famille, ce sont rarement des gens qui deviennent communistes ou qui vont se syndicaliser à la CGT. Des gens qui sont endettés, qui veulent revoir leur famille, c'est des gens qui envoient de l'argent au Portugal. Parce que l'objectif aussi de cette stratégie, c'était de séparer les familles. Et il y a eu beaucoup de familles qui ont été séparées de très longues années. Le mari en France, la famille au Portugal. Et ça, c'était la garantie qu'une grande partie du salaire de l'immigré allait partir en envoi vers sa famille et que cet immigré allait vivre de grands sacrifices en France, notamment ce qui explique aussi le bidonville. Bon, il coûtait cher, les bidonvilles. Mais c'était que les gens voulaient épargner le maximum. Épargner le maximum, que tout leur argent possible, le maximum, était pour envoyer à leur famille. Ça, dans les premières années. Après, ça a changé. Et donc, vous voyez, la clandestinité, ce n'était pas un échec. En fait, ça s'est trouvé être une solution parfaite pour les équilibres de dictature. Après, il y a eu les effets pervers. Et il y a eu un autre avantage, et je terminerai là. C'est aussi des avantages pour la France. C'est-à-dire que la France, maintenant vous connaissez tous les discours sur les sans-papiers, sur il faut respecter la loi, etc. À partir de 1962, mais même des années 50, il y a un Premier ministre qui s'appelle Georges Pompidou. Et Georges Pompidou, alors pour des raisons que je ne peux pas vraiment vous expliquer au détail pourquoi, a une obsession. Son obsession est de maximiser ou maximaliser la venue des Portugais en France. Alors, je ne sais pas si un de ses amis à l'école, au fin fond, était portugais, je ne sais pas, mais c'est très prégnant. Et pour ça, il y a une vision qui, après, est impulsée du haut du gouvernement vers le reste, c'est que les Portugais sont les derniers immigrés européens, catholiques, et donc, là, je reprends un discours, assimilables, dont la France va bénéficier. C'est-à-dire qu'après les Belges, après les Suisses, après les Italiens, après les Grecs, après les Espagnols, il y a les Portugais, qui, pour des raisons de l'histoire, ne sont pas trop venus en France jusqu'à maintenant, mais maintenant, ils commencent à venir. Et c'est une opportunité qu'il faut à tout prix saisir. Il faut maximaliser leur venue. Pour maximaliser leur venue, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les laisser rentrer. S'ils rentrent clandestinement, laissons-les rentrer clandestinement. Si ça ne respecte pas la loi de 1945 sur la rentrée des étrangers, pas de problème. En 64, Georges Pompidou lui-même va imposer au ministre de l'Intérieur qu'une circulaire soit envoyée à tous les préfets de la frontière surtout, qui dit que tous les Portugais qui rentrent en France sans papier, ni même une carte d'identité, doivent être munis d'un récépissé pour par la suite se faire régulariser à Paris ou à Clermont-Ferrand, là où ils se trouveront. Et après, c'était très simple pour un Portugais de se faire régulariser. Assez simple pour se faire régulariser. Et donc, il y a à la fois les besoins de main-d'œuvre des années 60-70, les autoroutes, les Mola, Renault, Clermont-Ferrand, les mines de charbon, un peu moins les mines de charbon, mais aussi les mines de charbon, ça commence à... le bâtiment, surtout, les domestiques, les concierges, etc., etc. On a besoin de main-d'œuvre. Et c'est des gens qui trouveront de l'emploi sans aucun problème. D'autre part, pour ces raisons-là, c'est-à-dire qu'il y a... Maintenant, c'est un accident historique, un accident. Ou du moins, c'est un renversement. Depuis le 19e siècle, la France, on ne fait pas assez d'enfants. Et donc, la France a toujours eu besoin d'aller récupérer des enfants d'autres pays. Ça a été les Italiens. Et donc, on considère que c'est bien. Démographiquement, c'est intéressant. Et d'autre part, il y a une autre raison qui est très importante et qui est dite noir sur blanc dans les documents que j'ai pu consulter. Plus nous aurons de Portugais, moins nous aurons d'autres immigrations. Et les autres immigrations, c'est notamment après 62, l'immigration algérienne, l'immigration sud-saharienne. C'est dit très clairement. C'est-à-dire que si nous favorisons la venue clandestine des Portugais, et en plus, il faut bien avoir en tête qu'il y a une guerre pour les Portugais. C'est-à-dire que les Français ne sont pas les seuls à avoir les Portugais. La République fédérale allemande veut aussi les Portugais. La Suisse, un peu plus tard, veut les Portugais. Les Belges veulent les Portugais parce que les Italiens n'immigrent plus. Les Espagnols immigrent moins. Et donc, les Portugais, c'est un peu une sorte de compétition pour avoir les Portugais. On leur donne toutes les qualités. Donc, et il y a deux stratégies différentes. La France va opter pour la stratégie clandestine. On laisse faire les réseaux clandestins qui fonctionnent très, très bien. Un peu mafieux, mais ils fonctionnent, qui font venir des gens par centaines de milliers chaque année. Les Allemands, eux, ont plutôt opté pour une immigration légale, qui était préférée par le gouvernement portugais, qui a moins marché. C'est-à-dire qu'il y a 900 000 portugais qui vont en France, il y en a 130 000 qui vont en Allemagne. Alors que les salaires allemands, déjà à l'époque, étaient beaucoup plus élevés que les salaires français. Les Français disaient « Ah, mais c'est les liens culturels entre la France ». Bon, la plupart des Français ne savaient pas un traître mot du portugais, ne savaient pas un traître mot du français. Et la proximité culturelle, on ne mange pas trop de morue, bon, là, c'est des stéréotypes, mais il n'y avait pas vraiment de proximité culturelle. Et donc, cette stratégie de la clandestinité a très bien fonctionné. C'est-à-dire que ça a été une des armes que le gouvernement français a utilisées pour obtenir le maximum. Et on peut dire que ça a réussi. Et ce qu'on sait moins, c'est qu'en juillet 1974, quand le gouvernement Chirac ferme les frontières à l'immigration, très souvent c'est la date limite de l'histoire de l'immigration, il y a des circulaires qui officieusement passent, qui font des exceptions pour les Portugais et les Espagnols. C'est-à-dire que même après 1974, on considère que les Portugais et les Espagnols peuvent quand même venir. Et ma mère est venue en France en 1977, je pense de façon tout à fait clandestine et illégale, et sans aucun problème par la suite et pour ses enfants. Donc je l'ai été un peu lent et un peu long. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie tous.